Et je vous invite à faire une ou deux lectures d'introduction. Dans le livre des Actes, au chapitre 20 et au verset 28, nous lirons tout d'abord ce que nous trouvons là. Voilà, il s'agit du discours, enfin du discours, de l'exhortation que l'apôtre Paul adresse aux anciens de l'église d'Éphèse, église d'Éphèse dont lui-même Paul a été le fondateur. Et au cours de ses adieux qu'il leur adresse, il leur dit ceci à ses anciens: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. Et puis on revient quelques pages en arrière dans l'Évangile de Jean, cette fois au chapitre 21 et au verset 15, où il est écrit: après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit: « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit: « Paix, c'est-à-dire fais paître mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois: « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Pierre lui répondit: « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit: paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois: m'aimes-tu? Et il lui répondit: Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes brebis, ou selon d'autres traductions, sois le berger de mes brebis. L'Église, dans la parole de Dieu, est comparée à une épouse qui est l'objet de l'amour de l'époux divin, Jésus. Elle est comparée à un temple, le Saint-Esprit étant en son sein. Elle est comparée aussi à un corps dont Jésus est la tête, le chef, et dont chacun de nous est un des membres. Et l'Église est comparée aussi dans la parole de Dieu à un troupeau. Chacun de nous, chrétiens, nous faisons partie de ce troupeau, puisque chacun d'entre nous, nous sommes les brebis du Seigneur. Amen. Les brebis de Jésus. Alors, qui dit troupeau, qui dit brebis, dit berger. Voyez ? Et le mot berger et le mot pasteur sont en fait des synonymes, ça veut dire la même chose. Jésus nous est présenté dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, au verset 20, comme étant le grand pasteur des brebis. D'autres traductions disent ce qui est la même chose: le grand berger des brebis. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, au verset 11, on connaît tous ce texte, Jésus dit: je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et c'est à lui, en effet, qu'appartient le troupeau tout entier et chaque brebis en particulier, puisque, comme il est souligné dans le texte que nous avons lu dans le livre des Actes, ce troupeau, il se l'est acquis par son propre sang. Vous voyez, si l'Église existe aujourd'hui, en tant que tel, c'est parce que Jésus a donné sa vie sur la croix. Il est mort pour porter les péchés de tous les hommes, pour assurer par son œuvre rédemptrice notre salut, pour nous communiquer une espérance vivante à chacun d'entre nous. Mais l'Évangile de Jean, au chapitre 12, j'ai oublié le verset, excusez-moi, nous dit qu'il est mort aussi pour réunir en un seul corps, en un seul troupeau, les enfants de Dieu dispersés. Donc, c'est lui le grand berger, c'est lui le grand pasteur. Mais il a également délégué cette fonction de berger, selon sa souveraineté, à des hommes qu'il a choisis et qu'il a qualifiés pour qu'en son nom, ils prennent soin des brebis de son troupeau, qu'ils prennent soin de son église, comme nous l'avons lu dans ce texte du livre des Actes. C'est ainsi qu'il dira à Pierre, hein, renouvelant sa vocation, « Fais paître ou sois le berger de mes brebis. » Ainsi, nous pouvons considérer qu'on ne s'improvise pas berger. Il faut avoir reçu du Seigneur, pas des hommes, du Seigneur, cet appel, cette vocation. Dans le texte du livre des Actes, il est question d'évêque. Alors, qu'est-ce que c'est un évêque dans le sens biblique? Ça n'est pas le dignitaire de l'Église catholique, voyez. Évêque, c'est un terme qui signifie tout simplement, dans le sens biblique, gardien ou surveillant, celui qui veille sur la santé, la bonne marche du troupeau. Et le texte dit « sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ». Cet appel, cette vocation dont je suis en train de parler est communiqué par le Saint-Esprit. Vous voyez, il est certainement bon de recevoir une formation, quand on le peut, théologique, dans un institut biblique. Alors, il y a des gens qui disent « Oui, mais les 12 apôtres, ils n'ont jamais été à l'école biblique. » Pendant 3 ans, ils ont été à la meilleure des écoles bibliques qui soit. Jésus en était à la fois le directeur et l'enseignant. Et ils ont reçu des bases, on peut dire théologiques, par l'enseignement du Seigneur, solides, vous voyez, et qui leur a permis ensuite, eh bien, de dire non pas n'importe quoi, mais ce qu'ils avaient reçu de la part du Seigneur lui-même. Et je le répète, il est certainement bon de recevoir une formation théorique, théologique, dans un institut biblique ou autre. Mais la formation théologique ne confère pas l'appel. Voilà. L'appel vient de Dieu. Alléluia. Il est communiqué par le Saint-Esprit. Voyez, par le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui attribue les dons, les qualifications, les ministères particuliers, celui qui confère les aptitudes, les capacités pour exercer dans l'Église de Christ telle ou telle fonction. Et ce matin, ici, nous parlons de la fonction de berger. Alors, dans le livre de Jérémie, au chapitre 3, verset 15, on peut afficher le texte si vous voulez, le Seigneur dit quelque chose à ce sujet, à propos des bergers. Vous savez, les bergers d'Israël, les responsables spirituels de la nation n'étaient pas à la hauteur à cette époque-là. Et des reproches leur sont adressés. Et le Seigneur fait cette promesse, n'est-ce pas? Jérémie chapitre 3, verset 15, « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. » Selon mon cœur, c'est Dieu qui parle. « Et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. » Qu'est-ce qu'un berger selon le cœur de Dieu? Ben, c'est un berger qui est conforme aux attentes divines. Alors, je ne vous cache pas qu'il est difficile pour moi de traiter ce sujet. Pourquoi? Parce que j'essaie d'être lucide et de prendre conscience en la matière de mes lacunes, parce que j'en ai. Lacunes que certainement vous avez pu vous-même constater dans un certain nombre de domaines depuis les quelques années où je suis au milieu de vous. Mais je veux faire comme Paul. Qu'est-ce qu'il disait, Paul? Il disait, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Et il dira aussi, je n'ai pas atteint la perfection. Mais je n'ai pas atteint la perfection, pardonnez-moi, mais je suis en marche. Et vous aussi, n'est-ce pas? Mais par ailleurs, n'est-ce pas, vous devez savoir ce que un vrai berger doit manifester comme qualité morale et spirituelle et comme compétence, tout en faisant preuve aussi de miséricorde. Le berger selon le cœur de Dieu, on revient au texte qu'on a lu précédemment, c'est quoi? Eh bien, un berger selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui a un cœur de berger. Un cœur de berger. C'est quoi un cœur de berger? D'abord, un cœur de berger, c'est un cœur qui aime les brebis. Alors, on ne peut pas être berger, on ne peut pas être pasteur, si on n'aime pas les brebis du Seigneur. Hein? Si on n'aime pas les brebis du Seigneur. Toutes, sans distinction, de rang social, d'affinités humaines, de génération, d'origine ou de caractère. Voyez, l'Église, c'est spécial. C'est très spécial, l'Église. C'est la seule communauté humaine dans laquelle on trouve des jeunes et des vieux, des savants, des gens qui ont un niveau d'instruction élevé, et d'autres qui sont primaires. Hein. Il y a des bacs plus 5 et des bacs moins 5. Hein. Il y a des gens qui sont vraiment élémentaires au niveau de l'instruction, et d'autres qui ont... On trouve des gens de diverses origines. Hein. Excusez-moi de le dire comme ça, mais il y a de toutes les couleurs au milieu de nous ce matin. Hein. Mais il n'y a que dans l'Église qu'on trouve ça. Parce que d'habitude, les gens qui ont un niveau intellectuel élevé, ils côtoient ceux qui leur ressemblent. Et inversement, vous voyez, hein, on se regroupe par nation, par affinité, etc. Mais dans l'Église, on ne s'est pas choisi. Vous comprenez ça? C'est le Seigneur qui nous a choisis et qui nous a mis ensemble. Quel défi! Des fois, sur le plan humain, tout nous sépare. Mais le défi, c'est de dépasser ces différences pour ne faire plus qu'un dans le Seigneur. Alléluia! Et la fonction du berger, la responsabilité du berger, avoir un cœur de berger, c'est aimer les brebis. Toutes les brebis, quelles qu'elles soient, je le répète, sans distinction de rang social, d'affinité humaine, de génération, d'origine ou de caractère. Parce qu'aussi, on a chacun notre caractère. Il y a des gens qui sont introvertis, vous voyez, sont discrets, ils rasent les murs, on ne les remarque pas trop. D'autres, ils sont extravertis, ils s'expriment beaucoup, on les entend, on les voit. Ben, nous sommes différents, hein, et il faut aimer ainsi toutes les brebis. La fonction du berger, c'est de veiller sur les brebis afin qu'elles ne s'égarent pas dans de mauvais chemins, afin qu'elles n'adoptent pas un mauvais comportement. Et parfois, vous voyez, lorsque une brebis a tendance à s'égarer, eh bien, il faut le courage de la reprendre. L'apôtre Paul dira... En Timothée, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Et puis, il n'y a pas que les comportements moraux qui peuvent être problématiques. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de brebis qui se laissent séduire par de fausses doctrines. Parce que, vous voyez, il existe des voleurs, des loups ravisseurs, comme dira le Seigneur Jésus lui-même, de faux prophètes qui se déguisent en vêtements de brebis. Et la responsabilité du berger, c'est de les débusquer, de les démasquer. Il y a un texte qui dit qu'il faut fermer la bouche aux contradicteurs. Fermer la bouche aux contradicteurs. Défendre les brebis, même. Moi, j'aime David en tant que berger. C'est remarquable comme il exerçait sa fonction. Vous savez, c'était dans le peuple d'Israël, la fonction de berger était méprisée. C'était des gens que l'on considérait comme vraiment pas grand-chose. Et c'est terrible parce que dans cette famille qui comptait 8 garçons, eh bien, le plus jeune, allez, zou, va garder les brebis. Peut-être on se disait, t'es bon qu'à ça. Mais il le faisait bien. Et il dira quelque part... Quand un ours ou un lion, venait enlever du troupeau une brebis, je courais après lui. Moi, j'aurais couru dans l'autre sens. Hein. J'arrachais la brebis de sa gueule. Si l'animal se retournait contre moi, je le frappais et je le tuais. Voilà quelle est la fonction du berger. Vous savez, il y a des gens qui pensent que David, eh bien, il était toujours là avec sa harpe, en train de chanter les psaumes. Oui, parfois, il y avait ça. Mais quand il le fallait aussi, quelle énergie. Veiller sur les brebis. Ailleurs, dans le livre des Proverbes, je n'ai pas marqué la référence, il est écrit ceci, « Connais bien chacune de tes brebis. » D'où l'importance des visites pastorales et des entretiens, quand c'est possible. Bien sûr, seul le Seigneur connaît le fond des cœurs. Il y a un texte qui dit que le cœur de l'homme, c'est comme un puits profond, vous voyez, hein, des eaux profondes. Mais dans ces moments de visite ou d'entretien, souvent les cœurs s'ouvrent. Et parfois, j'ai remarqué que c'est au moment où on termine l'entretien que finalement, tac, les choses les plus sérieuses sont dites. Hein. Parfois, des gens m'ont dit, je n'ai jamais parlé de cela à personne. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous le raconte là. Hein. Jamais parlé de ça à personne. Alors, on peut conseiller avec l'aide de la parole de Dieu lorsqu'un cœur s'ouvre. Et puis, bien sûr, on peut prier. On peut prier qui ? Jésus, qui dira qu'il a été envoyé pour guérir les cœurs brisés. Guérir les cœurs brisés. Certaines fois, bien souvent même, il n'y a rien d'autre à faire que d'écouter l'expression de la douleur et pleurer avec ceux qui pleurent. Quand quelqu'un a perdu un être cher, qu'est-ce que vous voulez lui dire ? Aligner des versets bibliques ? Oui, on peut essayer d'avoir un verset biblique approprié. Mais dans de telles situations, il faut savoir aussi se taire. Écouter les larmes et les partager avec ceux qui pleurent. Et c'est aussi la fonction du berger. Connais bien chacune de tes brebis. La fonction du berger, c'est de nourrir le troupeau, de dispenser la nourriture convenable. On connaît ce psaume 23, hein ? L'Éternel est mon berger, il me conduit, il me fait reposer vers les verts pâturages, il me dirige près d'eaux paisibles, il restaure mon âme. Restaurer, c'est nourrir. Hein ? On parle bien d'un restaurant. Qu'est-ce qu'on fait dans un restaurant ? On mange. Il restaure mon âme. C'est la parole de Dieu qui doit nous restaurer. Rien que la parole de Dieu. Et toute la parole de Dieu. Paul disait à Timothée, prêche la parole. Insiste en tout temps, en toutes circonstances, favorables ou non. Vous savez, dans certains milieux évangéliques aujourd'hui, que Dieu nous garde. La parole est la portion congrue. Elle n'a plus beaucoup d'importance. Il y a beaucoup d'effervescence, il y a beaucoup de manifestations, il y a un tas de choses qui se passent. Oui, certes, mais c'est la parole de Dieu qui doit rester au centre de nos rassemblements. C'est la parole de Dieu qui doit rester au centre de nos rassemblements. Et Paul disait, prêche la parole, je t'en conjure, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Moi, je vous dis aujourd'hui, il y a des fables évangéliques. Il y a des bonimenteurs évangéliques dont il faut se garder. Prêcher la parole. Se présenter, dira Paul à Timothée, comme un ouvrier qui n'a pas à rougir parce qu'il dispense droitement la parole de Dieu. Paul dira, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Non seulement il s'agit de dire des choses correctes sur le plan de la doctrine, de l'enseignement, mais le berger, pour nourrir le troupeau, il doit recevoir du Seigneur le message particulier qui convient à tel moment de la vie du troupeau. la pensée de Dieu qui correspond à tel ou à tel besoin. Et c'est bon quand il y a une parole qui est prononcée du haut de l'estrade et que sans que le prédicateur ne le sache, eh bien, ça correspond point pour point à la situation de quelqu'un ou de quelques-uns dans l'Église. Elle doit être cette parole apportée par la puissance de l'Esprit pour être persuasive, pour être convaincante, pour susciter la foi, pour stimuler en vue de la mise en pratique. Il faut qu'il y ait l'action du Saint-Esprit pour que cette parole soit implantée dans les cœurs. Ainsi, le berger doit être rempli du Saint-Esprit pour que la nourriture, la parole de Dieu, soit assimilée, soit digérée par les brebis. Le berger, il dirige aussi, il conduit, il oriente, en tout cas il le doit, dans la bonne direction. Il doit savoir où il va. L'apôtre Paul, dans la première aux Thessaloniciens, au chapitre 5, au verset 12, parle de ceux qui vous dirigent dans le Seigneur. Dans Romains, chapitre 12, verset 8, il est dit « Celui qui préside, qu'il le fasse avec zèle. » bien sûr, le dirigeant suprême, le chef de l'Église, ce n'est pas le pasteur, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Mais quand même, il a délégué cette fonction de direction à des hommes qu'il a choisis pour ce faire. Et il ne faut pas être des brebis rétives, mais plutôt dociles. Bien sûr, le but suprême dans cette direction, c'est le ciel. Vous voyez ? Moi, je veux qu'un jour, on se retrouve tous ensemble dans le ciel. Amen. Que personne ne soit... C'est pourquoi qu'on ne dise pas en arrivant là-bas, « Oh, celui-ci n'y est pas. » Celle-là non plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Aïe, aïe, aïe. C'est le souhait, la prière, le rôle du pasteur, du berger, de faire en sorte que, exhortant le peuple de Dieu, on puisse tous remplir les conditions de foi, de sainteté, de sanctification pour qu'on entre dans le ciel. Mais en attendant, on est sur la terre. Oui. Et à quoi ça sert l'Église sur la terre? Quelles doivent être ses orientations, ses objectifs? C'est vers ça que le berger doit conduire le troupeau. L'objectif, c'est d'adorer et de prier. Ça sert à ça, l'Église. Adorer le Seigneur et prier, intercéder. Voyez ? Et on doit s'efforcer de susciter le goût de l'adoration et le goût de la prière. Lorsque j'étais jeune, il y a longtemps, je devais avoir 19 ans à cette époque-là, avec quelques frères dont la plupart étaient plus âgés que moi, on se réunissait le samedi soir, tous les 15 jours. Et on priait. On se mettait dans une petite pièce dans l'église, là, et on priait. Et, vous voyez, ces frères, ces garçons, certains sont auprès du Seigneur maintenant, ne m'ont pas dit, Alain, quand tu pries, il faut dire ci, il faut dire ça, il faut dire comme ça. Mais en les entendant prier, en priant avec eux, vous voyez, ça m'a boosté. Ça m'a donné envie de prier. Et j'attendais avec impatience ces moments où on allait se retrouver dans la prière. Il faudrait que ce soit encore le cas parmi nous. La direction à donner, c'est aussi de faire en sorte que chaque brebis, en l'occurrence chaque disciple, eh bien puisse ressembler à Christ. Un travail de perfectionnement, de sanctification. Vous voyez ? Avoir ce désir et conduire le peuple dans cette direction. On ne peut pas dire, bon, ça ira toujours, le Seigneur fait grâce, allez, où, là, non. Mes amis, Dieu veut que nous soyons de vrais disciples. Hein? Et Jésus dira, tout disciple accompli sera comme son maître. Et l'enseignement, la prédication a pour but de faire en sorte que puisse être promue cette vision de la sanctification, du perfectionnement des croyants, conduire aussi le peuple dans la communion fraternelle, en incitant à l'amour, en incitant à l'amour, en incitant à l'amour. Conduire aussi dans l'évangélisation. Ce sont les brebis qui enfantent. Hein? Pas le berger. Le berger, il assiste. Hein? Les bergers qui sont dans la montagne, eh bien, là où ils ont le plus de travail, c'est à la période de ce qu'on appelle l'agnelage, lorsque les agneaux naissent. Vous voyez, jour et nuit, le berger, il est sur le qui-vive, là. Hein? Et c'est la fonction du berger dans l'Église, de faire en sorte que les brebis puissent, par leur témoignage, amener d'autres brebis à connaître le salut. Direction dans le service, pour encourager, pour stimuler, pour former au service, quels que soient les divers domaines. Donc il y a cette fonction de direction. Tout cela, tout ce que je viens de dire, demande un grand investissement, un fort engagement de la part du berger. Vous savez, quand Jésus dit que le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Bien sûr, ça nous met en référence avec la croix du calvaire, où il a donné sa vie pour nous sauver. Mais donner sa vie, ce n'est pas seulement mourir, c'est s'investir aussi. S'investir. Le berger doit faire preuve de désintéressement et de dévouement. Il doit savoir payer de sa personne. Hein? À l'inverse du mercenaire. Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 10, il parle du mercenaire. Le mercenaire, il cherche son avantage personnel. Et il s'enfuit lorsque le loup arrive, lorsque la difficulté surgit. Non, le berger, il reste en place. Il s'ouvre, il s'oppose au loup ravisseur, au lion rugissant. Mais il assume sa tâche et sa responsabilité. Jacob était un berger. Et à un moment, il parle de sa situation de berger. Il dit ceci, « Le sommeil fuyait de mes yeux. » Vous voyez ? En tant que berger, il y pensait tous les jours et toutes les nuits au troupeau. Ben c'est ça, être berger. Hein? Un pasteur disait, « On dit que de compter les brebis, ça aide à s'endormir. Moi, plus je les compte, moins je dors. » Comprenez ce qu'il voulait dire. Mes amis, il faut que vous le sachiez. Les pasteurs, ils vivent avec l'Église jour et nuit. On l'amène dans notre lit même le soir. Et parfois, le sommeil fuit loin de nos yeux. Paul, l'apôtre Paul, dira, « Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent les diverses églises. » Le mot est fort, le verbe. Assiégé, assiégé. Une ville qui est assez assiégée, vous voyez, était assiégé. Quand il était à Corinthe, il pensait à Éphèse. Quand il était à Éphèse, il pensait à Rome. Quand il était à Rome, il pensait aux Galates. Quand il était en Galatie, il pensait à Antioche, etc. Vous voyez, son cœur était étreint d'intérêt pour le troupeau. Le berger, il doit aussi se souvenir qu'il aura des comptes à rendre au Seigneur quant à la manière dont il se sera acquitté de sa tâche. J'aime cette parole de l'apôtre Paul qui écrit quelque part, c'est pas méprisant ce qu'il dit, mais il dit, il m'importe fort peu d'être jugé par vous, d'être apprécié par vous. C'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui compte. Il dit, c'est le Seigneur qui me jugera. C'est le Seigneur qui me jugera. Et en tant que berger, on doit garder cette pensée que le Seigneur appréciera la qualité de notre travail. Vous savez, j'y pense. Et maintenant que j'arrive en bout de course, je dis, Seigneur, après toutes ces années passées à te servir, lorsque je comparaîtrai devant toi, en dehors de la question du salut, qui est réglée par la grâce de Dieu, alléluia, qu'est-ce que tu retiendras de bon du service que j'ai accompli? Où est-ce que tu pourras dire, ça c'était bon? Et ça ne l'était pas. Qu'est-ce qui aura eu de l'importance à tes yeux? Et qu'est-ce qui aura été sans valeur à tes yeux? Je vous assure que cette question me taraude. Rendre des comptes. S'il l'a assuré correctement, sa fonction de berger. L'apôtre Pierre dira qu'il recevra la couronne incorruptible de la gloire. Tenez, on peut le lire, le passage, dans la première épître de Pierre, au chapitre 5 et au verset 14. Première épître de Pierre, chapitre 5 et le verset 14. Chapitre 5, verset 1er, excusez-moi, pas 14, 1er. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu, voyez, on y revient, qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et, si les conditions précédentes sont remplies, et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ça sera si le service a été accompli correctement. Dans le cas inverse, le berger sera sévèrement réprimandé et sanctionné par le Seigneur. Dans Ézéchiel chapitre 34, c'est l'Ancien Testament, mais ça peut être appliqué au Nouveau aussi. Dieu fait des reproches sévères aux bergers d'Israël, aux conducteurs de la nation israélite, du peuple de Dieu. Et il dit malheur aux bergers d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Voyez, c'est-à-dire qu'ils cherchaient leur propre confort et puis qu'ils se souciaient fort peu du bien-être des brebis. Il leur dit malheur à eux. Alors, il faut aussi dire quelques mots sur ce que doit être l'attitude des brebis par rapport aux bergers. Et laissez-moi vous lire quelques textes de la parole. Ce n'est pas le frère Ray qui les a écrits, ces textes, c'est la parole de Dieu dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12. Voilà ce qui est dit. Première aux Thessaloniciens, chapitre 5, et le verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. La considération, c'est-à-dire le respect de l'autorité confiée par le Seigneur au berger, autorité qui doit bien sûr être exercée avec bienveillance. Il est question là d'affection. Voyez, en tant que berger, on a besoin de se sentir aimé, soutenu, pas encensé, pas badé. Non. Quand on élève un homme sur le piédestal un petit peu trop facilement, très rapidement on va le faire dégringoler du piédestal à la moindre désillusion. Mais aimé. Dans le livre des Actes, au chapitre 14, au verset 19, il est question de l'apôtre Paul. Il est lapidé par les ennemis de l'Évangile. Là, on le traîne hors de la ville, on le jette comme un détritus, le croyant mort. Et il est écrit que les disciples l'ont entouré. Il me plaît de croire qu'ils ont dû prier aussi pour lui, vous ne croyez pas? Et il est dit que Paul s'est relevé. Il s'est relevé. Il était sanguignolant. Hein, lapidé, et coups de caillou sur la tête de partout, blessé, meurtri, bon, c'est pas grave ça. Mais les disciples l'ont entouré et il s'est relevé. Et on a besoin d'être entouré d'affection et aussi de prière, surtout de prière. Souvent Paul, vous l'avez noté dans les épîtres, se réclame de la prière des chrétiens. Il dit pas, mais moi je suis l'apôtre Paul, hein. J'ai besoin de personne. Moi, j'ai une ligne directe avec le ciel. Or, je n'ai pas besoin de la prière des petits chrétiens. Là, bon, je suis au-dessus. Non, non. Et il dit souvent, priez pour moi. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand je prêche l'évangile, de le faire avec hardiesse, avec force. Voilà ce qui en est. Dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 13 et au verset 17, voilà ce qu'encore il est écrit. Hébreux, chapitre 13 et le verset 17. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Voyez, rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Pour obéir, puisqu'il est question d'obéissance, de bon cœur, il faut faire confiance. Si le berger, qui n'est pas parfait, le berger humain, est malgré tout crédible, s'il apparaît quand même comme fidèle et digne de confiance, il faut accepter de tenir compte de ce qu'il dit. Bien sûr, non pas obéir aveuglément, mais obéir quand la parole est conforme justement à ce qui est consigné dans les Écritures. Et puis je dirais qu'un jour, le berger partira. Le berger partira, le berger humain. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le grand pasteur des brebis, Jésus, il restera, lui. Alléluia. Il restera, voyez. Il partira, le berger, pour s'occuper peut-être de notre troupeau ou s'engager dans une autre forme de service. Et il passera le relais. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, au verset 20, David est appelé à d'autres fonctions. C'est la guerre, ses frères sont partis au combat. Alors le papa dit, voilà, tu vas aller apporter aux frangins quelques fromages, là, leur prendre des nouvelles, me dire comment ils vont. Et David n'a plus jamais été brebis de ses bergers, parce qu'à partir de là, il y a eu la victoire sur Goliath, et ça s'est enchaîné, n'est-ce pas? Il est devenu capitaine dans l'armée de Saül, et plus tard roi. Et au chapitre 17, au verset 20 du premier livre de Samuel, il est dit qu'il laissa les brebis à un gardien. Il n'a pas dit, maintenant, advienne que pourra, après moi le déluge. Non, il a laissé ses brebis à un gardien. Pas à n'importe qui, mais à quelqu'un dont il a jugé qu'il était suffisamment compétent pour assurer lui-même cette fonction de gardien de berger. Alors, prochainement, vous le savez, vous aurez un autre berger. Vous aurez un autre pasteur, notre surveillant, notre gardien. Alors peut-être il y en a qui disent, mais on ne le connaît pas, comment ça va être, est-ce qu'il va être gentil, comment sera sa femme, etc. etc. David, il n'a pas pris quelqu'un là au hasard, allez toi là, tu t'occupes des brebis, moi j'ai autre chose à faire. Non. Je voudrais vous rassurer, l'homme qui viendra nous succéder, mais pas n'importe qui. Mais si j'ai fait appel à lui, c'est après réflexion, après observation, après interrogation. Un homme qui a fait ses preuves, et il faudrait vraiment qu'il soit accueilli par vous favorablement, lui et sa famille, voyez, qu'il se sente bien dès qu'il mettra les pieds à Annecy. Parce que s'il se sent bien, vous-même vous en sentirez bien. Et son ministère pourra être fructueux et fécond au milieu de vous. Je conclus. Vous bénéficiez ici du ministère de plusieurs bergers. Vous voyez ? Il est bon qu'il en soit ainsi et il me semble que c'est plus conforme à la volonté de Dieu exprimé dans les Écritures. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Peut-être certains disent, mais je ne suis pas berger moi, pourquoi ils me racontent ça? Ce n'est pas mon affaire. Vous savez, il y a une tendance aujourd'hui dans l'Église, dans les églises évangéliques, qui dit que on n'a plus besoin de pasteur. On n'a plus besoin de berger. On n'a plus besoin de communauté comme celle-ci, là, structurée un peu. Hein. Il suffit que les croyants se réunissent par petits groupes, par quatre ou cinq, qu'ils s'exhortent mutuellement, et ça ira bien comme ça. Je crois que c'est une erreur. Bon, certes, on peut se réunir et prier ensemble. Hein. J'ai dit que je le faisais, moi, quand j'étais gamin, tout jeune à Toulouse. Mais c'est bon, l'Église. C'est bon d'être ensemble, d'être tous ensemble. Et je voudrais vous dire cela avec humilité. C'est bon aussi d'avoir des bergers qui s'efforce d'être selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, les églises, vous savez, et les bergers sont la cible de détracteurs qui remettent en question leur nécessité. Et ces gens-là sont actifs sur les réseaux sociaux, sur Internet. Bien sûr que les églises et les bergers ne sont pas parfaits. Il doit y avoir un travail constant de perfectionnement, de sanctification chez les uns, chez les autres. Mais il faut qu'il y ait unité. Il faut qu'il y ait... faire en sorte que le courant passe, vous voyez, entre les brebis entre elles et entre les brebis et les bergers. Dans le monde évangélique, de nos jours, il y en a toujours eu, mais de nos jours, peut-être plus que jamais, parce que aujourd'hui, les communications se font plus facilement. Il y a beaucoup de confusion. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de confusion. On y perd son latin. Et il faut veiller afin de ne pas être facilement séduit par des gens qui promettent monts et merveilles. Vous voyez ? Mais rester dans la ligne de la parole. C'est vrai pour les brebis. C'est vrai pour les bergers. Et c'est pourquoi j'ai cru devoir vous dire ces choses-là. Vous voyez, je n'étais pas parti pour ça. Je voulais prêcher ces jours-ci sur l'Église. Et le Seigneur m'a mis à cœur de prêcher non pas tellement sur l'Église, quoique, mais plutôt sur les bergers. C'est pas peut-être un thème qu'on aborde fréquemment. Je peux me permettre de l'aborder, puisque d'ici quelques mois, je ne serai plus parmi vous, n'est-ce pas? Mais aimez vos bergers. Priez pour eux. Soutenez-les. Et faites leur grâce aussi. Amen. Et aimez les brebis. Parce qu'il n'y a pas de berger sans brebis, hein? Mais il ne doit pas y avoir non plus de brebis sans berger. Voulez-vous que nous prions le Seigneur quelques instants ?